Je voudrais revenir sur le partenariat. J'ai lu dans des articles, entre autres, que vous avez écrit, mais d'autres aussi, que le partenariat avait comme base le fait de pouvoir travailler justement sur la symétrie, parce qu'on n'était partenaire que quand on avait besoin de l'autre. Et moi, cette définition, je l'utilise depuis quelques années, parce qu'effectivement, je trouve qu'elle structure. On n'est pas partenaire parce qu'on est gentil et qu'on a envie de travailler ensemble. On est partenaire parce qu'effectivement, que ce soit quelques partenaires que ce soit, à un moment donné, dans nos missions de chacun, on a besoin de la mission de l'autre, et c'est bien dans cette rencontre-là. Donc, d'emblée, il y a effectivement une asymétrie qui se construit dans le partenariat, et pas symétrique. Et le partenariat, il fonctionne que si on assume une certaine conflictualité, sans parler de conflit, mais une certaine conflictualité qui va effectivement faire que, régulièrement, on va se reposer, qui fait quoi, et où sont les limites du travail de chacun. Autrement, on est dans une espèce de ventre mou, si je peux me permettre l'expression, qui va pas construire. Donc voilà, donc c'est, bon, après, effectivement, ça peut venir se tisser avec le rapport de force pour autant, et la symétrie liée aux places et au statut. Et avec la force, effectivement, de l'éducation nationale, qui est quand même encore très pyramidale. Donc, je voulais vous questionner sur cette définition-là, moi qui m'avait bien aidée en son temps. Peut-être que ça vaut le coup de la réinterroger.
Je cherche des pompes parce que, et ça vous le retrouvez dans l'article que vous avez en ligne, le partenariat, il est défini par l'institution en disant que les situations de conflit nuisent à la qualité du partenariat. C'est-à-dire le discours de l'institution, on ne peut pas faire sans. Même si ce discours-là ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on travaille, il y a bien une prescription derrière. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment elle agit, finalement, sur nos situations de travail? C'est-à-dire que dans la représentation que donne l'institution du partenariat, c'est une logique très pacifiée, dans laquelle le conflit est exclu. C'est-à-dire en disant, si on veut faire un partenariat, il faut exclure les conflits. Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans mes travaux sur les expériences de la coopération, c'est que le conflit, c'est à l'inverse le moteur de la coopération. C'est-à-dire que si on veut coopérer, il va bien falloir qu'on arrive à confronter, c'est-à-dire à prendre position les uns les autres, à confronter des positions pour que les objets que nos objets de travail, d'une certaine manière, deviennent des objets communs. C'est pour le dire autrement, que le commun, il n'est pas par rapport au thème sous l'égide duquel on se retrouve, mais qu'il est d'une certaine manière le produit de la confrontation que nous avons autour d'un objet, ou autour d'objets qui, au demeurant, au départ, sont pas communs, c'est-à-dire sont ce que chacun y ramène. Hein. Et moi, ce qui me semble important dans ce que vous dites, c'est que il y a une négation dans le discours de l'institution de la symétrie, ou des asymétries et des rapports de pouvoir qui peuvent exister, et qu'il me semble que ne pas travailler avec ces asymétries-là a de grandes chances, surtout, de nous empêcher de faire quelque chose comme du partenariat. Par contre, l'asymétrie, je ne sais pas si nous la situons au même niveau dans ce que vous ramenez, il y a une asymétrie au départ, c'est-à-dire quand on a besoin de l'autre, on va le chercher, et du coup, au point de départ de cette idée de travailler ensemble, il y a l'idée que on n'est pas tous autour de la table avec le même désir au départ, bien entendu. Qu'il y en a un qui peut prendre une initiative, qui va chercher les autres, et qu'à ce moment-là, il va chercher les autres parce qu'il a une certaine représentation des autres. Et que la construction de la coopération, elle se fait avec ce dépassement des représentations les uns sur les autres aussi. Hein, c'est la possibilité de se dire un certain nombre de choses sur les places que l'on imagine pouvoir occuper et sur le sens que l'on imagine pouvoir produire à partir de cette rencontre-là. La symétrie dont moi je parlais tout à l'heure, elle était là pour le coup l'exemple. J'avais travaillé avec un certain nombre de centres sociaux sur leur relation à l'école et sur le fait qu'on a ce que j'ai appelé à un autre moment, une autre époque, parfois une logique de vassalisation, c'est des associations dans l'institution scolaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser les autres, distribuer finalement les autres à des places qui sont des places très utilitaires ou une logique très utilitariste, de dire ça va nous permettre d'externaliser, d'évacuer un certain nombre de problèmes, donc d'instrumentaliser autrui tel qu'on se le représente, mais sans réciprocité, c'est-à-dire qu'on lui donne quelque chose, mais la porte, elle n'est pas ouverte pour en discuter d'autre chose. Donc on fabrique des objets qu'on va pouvoir externaliser, qu'on va distribuer autour de nous, mais ils vont rester à l'extérieur, pour le dire assez vite. Voilà. Donc là, il y a une asymétrie qui me paraît, moi, très forte. Je ne dis pas qu'elle est systématique, etc., mais elle m'apparaît quand même relativement structurante, relativement présente dans les rapports entre l'école et d'autres institutions, etc.
Oui, alors moi, je suis toujours, mais on se connaît depuis un certain temps, je suis toujours entre la séduction pour ta posture et l'extrême attention que tu essayes de porter aux autres dans la manière dont tu parles, et à la fois... Un certain doute sur comment tes postures théoriques elles s'enchassent avec celles que je maîtrise. Donc je vais essayer de parler de ça. Juste avant ça, pour reprendre la question d'Isabelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans le petit document qu'on vous a donné à l'entrée, il y a un petit résumé que j'ai sauvagement fait du travail de Anne-Marie Benahoun et Stéphane Q sur question au vif du partenariat, où sur cette question du partenariat, on retrouve un certain nombre de choses de ce qui vient d'être dit. Je ne vais pas parler de ça. Encore que, je prends juste deux exemples dans ce que tu as dit qui me questionnent. C'est pas des questions, c'est des. Je réfléchis à voix haute et j'espère que ça peut aider à ce qu'on discute ensemble au sens propre. Du côté des professionnels et du côté des élèves, cette question du pouvoir, de la domination, etc. Moi, quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est-à-dire que ce que tu viens de répondre, on le retrouve par exemple beaucoup si on voit une discussion entre un instit lambda et un animateur de quartier. Cette question de la dominance, de la posture de l'enseignant, je suis assez d'accord, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Mais si je monte d'un étage et que je regarde ce qui se passe dans une réunion de cordo PRE, et je vois dans la manière dont les différentes institutions mettent en accusation l'école et comment l'école se retrouve accusé de ne pas faire tout ce qu'elle devrait faire, pour parfois de bonnes raisons, hein, c'est pas la question. Et du coup, je me dis que les dominations, les rapports de force, etc., ils existent bien, mais par exemple, je vois beaucoup aujourd'hui d'élus qui sont dans une position extrêmement dominatrice par rapport à un DASEL, et qui leur disent, globalement, vous faites ce que je vous dis et je vous emmerde, parce que à partir de maintenant, c'est moi qui ai les clés sur l'école. Et donc les questions, en tout cas c'est une question aussi idéologique, et dans ce qui est en train de se passer par exemple dans la territorialisation des politiques éducatives, notamment dans le premier degré, très vite, peut-être que c'est les anciens dominés qui vont devenir dominants, et inversement, ça n'invalide pas ce que tu as dit sur la question du pouvoir, hein. C'est simplement que les politiques publiques, mais les jeux d'acteurs, et surtout les jeux, moi je le dis comme ça un peu brutalement, hein, mais excusez-moi, mais les différents lobbies qui interagissent sur ces questions d'école pour prendre la main, non pas sur le marché, mais sur ce que ça signifie symboliquement, ça me semble assez brutal. Et du coup, c'est là où je suis un peu dubitatif entre posture militante et posture de recherche. Je me dis, qu'est-ce qui est de nature à outiller les gens pour travailler ensemble, c'est ce qui me semble être du côté de qu'est-ce que les uns et les autres on a comme problème de métier. Alors je le dis toujours avec ça, mais excusez-moi pour ceux qui me l'ont déjà entendu dire, mais dans ce que Stéphane met en route dans le séminaire, c'est quand les gens commencent à parler de leurs problèmes de métier qu'on sort des strictes rivalités, quand on se centre non pas sur qui doit prendre la main sur le dispositif, mais en fait notre intérêt commun, parce qu'ils ont tous quand même un intérêt commun sur les gamins et sur la réussite des gamins. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, il y a un truc que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est sur les questions des positions asymétriques par rapport aux élèves. Tu as beaucoup insisté tout à l'heure sur le fait que les élèves étaient considérés comme des ignorants par un système éducatif qui voyait plutôt les vides que les creux, etc. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que, bien sûr que l'école, c'est pas le seul lieu d'éducation. Mais dans l'école, pour moi, il y a trois... L'école, ça sert à trois choses. Ça sert à transmettre une culture, transmettre... en gros, des valeurs en même temps que cette culture, au sens où Anthony en a parlé ce matin. ça sert à outiller cognitivement les individus à partir de systèmes théoriques, et ça sert à développer éventuellement l'estime de soi pour que les gens fassent l'expérience que la culture c'est aussi pour eux et qu'ils peuvent s'y développer. Bon. Bien évidemment que l'école elle fait pas tout ça bien tout le temps, mais il y a besoin de cette position asymétrique. Et on a pas mal de sociologues qui nous ont bien appris que, enfin, ou du psychologue, peu importe, que la position asymétrique en éducation, il fallait pas confondre la normativité qui pouvait être quelque chose qui mettait les gens en situation, alors là, pour le coup, d'humiliation, etc., et puis la norme scolaire qui est la contrainte de ce qu'est une situation particulière, c'est-à-dire pour transmettre la culture, les objets de savoir, on peut toujours discuter de ce qu'il faut, je suis d'accord avec toi, on peut toujours discuter de ce qu'il faut enseigner, ce qu'il faut mettre dans les programmes, etc. Mais pour passer de la connaissance empirique du monde à la mise en discipline comme étant quelque chose qui permet de structurer le cerveau et de discuter, il y a besoin de conditions objectives qu'on n'arrive pas. Alors moi, je ne crois évidemment pas que les TIS ou je ne sais pas quoi, ils changent quelque chose, mais les conditions de l'étude, ça veut dire quelque part une imposition de normes scolaires par la société. C'est-à-dire que Vygotsky disait l'éducation est un combat, c'est-à-dire il n'y a pas de choses naturelles, évidemment. Enfin, je pense que tout ça, tu le partages. Hein. Mais en même temps... les conditions de la construction de la norme scolaire, en tant qu'elle s'oppose, et là je te suis, à effectivement le système libéral qui vaut que toutes les opinions se valent, et, etc., c'est quelque chose qui évidemment est très compliqué dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, mais est-ce que du coup il faut abandonner ça? Enfin, moi je ne le crois pas. Et tu citais Rancière, mais Rancière, il parle du maître ignorant en citant Jacotot, mais quand Jacotot, enfin, je vous invite à relire le bouquin qu'a fait l'Institut Jacotot il n'y a pas longtemps sur l'œuvre de Jacotot et sa vie, etc. Et c'est très intéressant comment, dans sa méthode, donc c'est un pédagogue qui a été assez étonnant parce que on disait qu'il avait une posture d'enseignement très différente, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que Jacotot mettait en œuvre, c'est en gros la même chose que les écoles coraniques ou les institutions qui, dans les institutions crétaines, apprenaient. C'est commencer à apprendre un texte par cœur bêtement. Prenez n'importe quel bouquin, tout est dans tout, disait-il. Et une fois que vous aurez appris ce bouquin par cœur, vous aurez les outils linguistiques, langagiers, etc., qui vous permettront d'apprendre quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas du tout une posture centrée sur le développement de l'enfant, enfin, au sens bien vu de type pédagogie moderne, etc. Donc du coup, cette question de la norme scolaire et de comment des groupes sociaux, enfin des enfants faisant partie de groupes sociaux très éloignés de l'école, peuvent entrer et réussir à acquérir les savoirs culturels qui vont leur permettre de jouer leur rôle dans la compétition. Parce que, bon, lutte des classes, lutte des places, dirait notre cher directeur Lussault, mais voilà, cette compétition, effectivement, pour être dans les instruments du pouvoir, est-ce qu'on peut s'en dispenser dans la société? Je ne sais pas. Voilà, c'était les deux remarques, pardon d'avoir fait un peu long, mais c'est des choses un peu compliquées à exprimer.
Il y a plusieurs niveaux auxquels il faudrait qu'on discute. Voilà, tu discutais aussi celle de la posture. Elle est évidemment liée à la manière, au type de savoir qu'on produit. C'est pas peut-être là tout de suite, là ici, auquel j'y répondrai, mais j'entends bien qu'il y a une envie de discuter sur ce mode-là, et j'y répondrai avec grand plaisir et grand intérêt aussi. Mais je partage les remarques que tu fais. Alors, si je les prends dans l'ordre, sur la question du partenariat, je partage tout à fait ton analyse, et effectivement, il y a un prisme dans lequel, dans ce que j'ai pointé, c'est qu'effectivement, c'est de raisonner, là pour le coup, avec les acteurs avec lesquels je travaille, et de resituer les rapports du point de vue de ceux-là, à un moment donné, qui sont extérieurs au système scolaire et qui, ou avec ce point de vue-là. J'entends bien qu'il y a d'autres points de vue à travailler, à multiplier, et qu'il y a aussi ce point de vue-là, c'est-à-dire de l'institution,
scolaire qui va travailler avec des représentants locaux. L'article, je vous renvoie la revue Diversité qui vient de sortir, dans lequel est paru le texte auquel on faisait référence. Le texte de Manon Pell sur l'agglomération de Grenoble me paraît très 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 illustratif et voilà de ce que tu pointes là, hein, c'est-à-dire combien l'école prise dans les relations de travail avec les collectivités locales va se retrouver finalement l'enjeu des réunions et des intérêts de pouvoir des uns et des autres, voilà, et dont on ne sait pas bien quoi elle sert parce que au fond elle n'est pas dans un dispositif de coopération entre les uns et les autres. Et on peut se demander si elle ne sert pas d'objet, y compris qui meuble l'absence de coopération intercommunale par l'espèce à la fois de critique et de désir de l'école. Pour moi, ces deux éléments travaillent ensemble, et que dans cette évolution de l'histoire et des compétences données au niveau local, aux communes, etc., il y a aussi cette question du désir de l'école. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard non plus si il y a autant de critiques à l'égard de l'école. D'accord. C'est-à-dire que la redéfinition de ces rapports de pouvoir redéfinit aussi la manière dont se joue cette espèce de centralité de l'aide que l'on accorde à l'État et à l'institution qui représente l'État, qu'est l'école, quand bien même l'ordre des relations locales n'est plus tout à fait et uniquement celui-là. Donc moi, ça me paraît important de les réarticuler et dans ce que tu dis, c'est-à-dire de mettre en évidence, comme je ne le fais pas, hein, bien au-delà de ce que je fais, pour le coup, la pluralité des rapports de pouvoir, ou plutôt comment ces rapports de pouvoir se jouent de manière plurielle à partir des uns et des autres. Voilà. Mais voilà, donc c'est plutôt pour moi, effectivement, un manque évident de ce texte-là en particulier, hein, de ce travail-là en particulier. L'autre élément que tu ramènes, par rapport aux élèves, là aussi, c'est-à-dire, j'adhère à cette évidence partagée du fait que l'école répond à un projet de société de transmettre un certain nombre de choses, donc qu'elle va s'occuper des conditions de cette transmission, et que parmi celles-ci, il y a bien effectivement le statut et la place que l'on accorde aux enfants. Voilà. À l'intérieur de ça, à l'intérieur même de ce projet-là, il y a quand même la question de la place qu'on leur donne et de ce qu'on leur impute à partir de là, qui est la question de pédagogique. Et là, effectivement, c'est pas nécessairement chez Jacotot, dans ses formats pédagogiques, qu'on va retrouver effectivement la discussion la plus florissante de ce point de vue-là. Ce que moi je retiens de Rancière et qui me semble particulièrement intéressant du point de vue de la question de l'égalité, c'est au fond, c'est le mouvement, à mon avis, qui est autour de son bouquin sur le travail de Jacotot, c'est quel statut donner à la question de l'égalité et des inégalités. Et ce qu'il dit, c'est on est dans un discours sur l'école qui pointe les inégalités à l'école et qui fixe l'égalité comme un horizon à atteindre en disant on l'atteindra si on réduit les inégalités. Bon, non seulement on n'y arrive pas, c'est-à-dire non seulement et de son point de vue, je ne sais pas s'il faut le suivre jusque-là, mais il dit le fait même de travailler sur les inégalités en fait démultiplie cette question plutôt qu'elle ne la réduit. Voilà. Par contre, ce qui me paraît extrêmement important, c'est quand il pose à partir de cette expérience-là de se dire pour réaliser l'égalité, eh ben faut la postuler. C'est-à-dire, il faut poser comme point de, faut poser l'égalité pas comme l'horizon à atteindre, mais comme le point de départ. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette idée-là, c'est que, et ce qui va m'intéresser si je fais le lien avec le concept de discrimination, le concept que fait comment le concept de discrimination fait usage du droit, c'est que justement, il le dit, on ramène l'égalité comme point de départ, en disant tout le monde a droit à être traité comme des égaux, parce que tout le monde est égal ici. L'égalité est au départ. Et la question de l'inégal, la question de l'horizon est également présente. C'est de dire l'égalité est un postulat, mais l'enjeu, c'est de la réaliser. C'est de renverser ce rapport-là, mais c'est pas de faire disparaître un horizon vers lequel on a à travailler. Et ça me paraît quand même assez important, parce qu'il me semble que dès qu'on travaille sur la question d'égalité, je pense que Rancière pose un élément tout à fait convaincant, qui est de dire... On ne peut pas démontrer l'égalité, ni l'égalité. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre du postulat, dans cette affaire-là. Par contre, le choix d'un postulat ou de l'autre n'a pas du tout les mêmes effets. Et là, il y a un lien avec les théories de la psychologie sociale, hein, ou de la psychosociologie, sur effectivement les schémas, enfin la réalisation des schémas mentaux. Oui, on a bien quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire poser le statut que l'on va donner à cette question change le statut que l'on donne aux enfants au sein même d'un projet. Et ça, ça me paraît important à pas le perdre de vue.
En tant que femme et chef d'établissement, je voudrais quand même témoigner un petit peu de la question qui est posée là sur la question de l'égalité ou des tensions. Pour nous, quand on est chef d'établissement dans une zone d'éducation prioritaire, c'est vrai qu'on a souvent l'impression de scolariser un petit peu les relations qu'on a avec les adultes qui nous entourent. Je parle des associations. Vous disiez qu'il y avait asymétrie, mais on a l'impression aussi que les associations utilisent l'école, et notamment les zones d'éducation prioritaire, ou le public aussi, ou utilisent, ou du moins, j'ai pas eu cette impression d'utilisation, mais on a l'impression d'être très, très, très demandé, si vous voulez. Bon, le fait est que les associations vivent aussi donc de subventions, hein, et qu'elles ont besoin aussi d'avoir un public. Alors, il m'est arrivé quelquefois de penser, on n'est pas toujours les pauvres de service. Il faut quand même le dire. Cela dit, comme disait Madame Bordet, c'est vrai que travailler en partenariat, c'est pas forcément être dans la symétrie, c'est au contraire co-construire un projet, enfin un objet commun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant les rapports de pouvoir qui traversent l'école et qui sont des reflets des rapports sociaux qui sont dans l'école, quand vous parlez donc... moi, je pense que je sais pas ce que l'école doit... Enfin, dire. Qu'est-ce qui fait priorité? C'est que l'école fait société. C'est l'école qui fait société. À partir de là, poser le postulat de l'égalité, c'est quand même... et vous parlez du point de vue des enfants, hein, ou des élèves, c'est quand même peut-être être un petit peu hypocrite, parce que il y a des positions de, je dirais pas domination, hein, mais des positions différentes qui sont pas inégalitaires. Un adulte, ce n'est pas un enfant. Un maître n'est pas un élève. Il y a des apprenants et des enseignants. Donc c'est pas tellement des positions de domination, puisque apparemment c'est ce vers quoi on tend, pour ne pas parler de ce qui restera quand il n'y aura plus de combat, mais c'est mettre en avant que toute différence n'est pas inégalitaire et que la différence, c'est quand les différences se combinent, c'est ce qui fait du social. Et avec les enfants, c'est comme ça qu'on travaille, me semble-t-il.
Moi, il me paraît très fécond de retravailler à partir de cette tension-là. C'est-à-dire que, oui, un adulte n'est pas un enfant, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, oui, un adulte n'est pas un enfant dans cette relation-là, et cette relation ne pourra se jouer que si l'adulte et l'enfant ne sont pas dans la même position et dans le même statut. Et en même temps, sur quoi repose le statut d'adulte et se différencie-t-il du statut d'enfant ? Voilà. C'est-à-dire que dès lors qu'on est... Ça renvoie pour moi un peu à la tension que je disais tout à l'heure, y compris dans ce que mettait Foucault, enfin je le rassocie pour moi, hein, à l'existence de cette double grille de lecture qui doit cohabiter pour qu'on puisse travailler. C'est-à-dire que pour travailler, nous avons besoin de poser que l'adulte n'est pas le même et que la question n'est pas qu'il prenne d'abolir cette distance-là, mais la question c'est que faisons-nous et quels sont les présupposés de ce travail-là. Voilà. C'est ça qui me paraît moins important, c'est-à-dire que dire, il me semble que toute la question de l'éducation est traversée par cette tension, et ma question n'est pas de dire il faudrait annuler la tension en disant tout le monde égaux, mais c'est pas non plus de l'annuler en disant le tous différent, parce que la différence ne résout pas, le concept de différence pour moi ne va pas nous aider à le résoudre, là pour le coup, parce qu'elle occulte effectivement les asymétries qui travaillent. Et ce qui, moi, me paraît important, fondamentalement important, c'est d'activer combien cette tension nous traverse, nous travaille, combien, bien sûr, pour travailler, on a besoin de la mettre un peu en sourdine, c'est logique, hein, c'est-à-dire d'oublier, d'occulter et de la mettre en sourdine à certains moments. Mais comment, en même temps, produire du sens dans ce travail-là, à mon avis, et ça, c'est un vrai parti pris, hein, produire du sens dans ce travail, c'est remettre en jeu ces tensions-là. C'est-à-dire, c'est quoi une éducation républicaine si le projet de la République, c'est l'égalité ? Donc c'est quoi éduquer à l'égalité ? Voilà. C'est un paradoxe formidable, mais formidable dans tous les sens. C'est-à-dire, c'est un paradoxe qu'on ne résoudra pas, Mais à mon avis, qu'on a tout à gagner à mettre au travail, comme un paradoxe, comme une tension. Voilà, ma posture, elle est plutôt celle-ci, hein, c'est-à-dire de se dire, n'abolissons pas ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est on ne sortira pas, n'ayons pas l'illusion qu'on en sortira des rapports de pouvoir. On n'en sortira ni en les niant, ni en luttant contre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et moi, ça me paraît très fécond et très intéressant sur tous les plans, de travailler à l'articulation problématique de ces deux dimensions. Mon programme, pour le dire comme ça, de travail, il est moins sans cesse, hein, dans cette espèce de travailler ces articulations tout à fait improbables et en même temps tout à fait structurantes de nos espaces de travail.
Si je peux compléter, il me semble que là, dans ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a en éducation prioritaire, il y a deux dimensions qui cohabitent, qui s'articulent. Et qui se mélangent et qui sont donc problématiques et mettent en tension les acteurs, c'est d'une part effectivement des rapports de pouvoir, si on veut employer ce mot-là, entre enfants et adultes, enseignants, enseignés, c'est-à-dire des rapports de ce type-là, et un rapport de pouvoir là complètement différent entre une classe dominante et une classe dominée. Donc, tout ça s'articule, se mélange, et il n'est pas toujours facile pour les acteurs de faire la distinction entre les deux. À quel moment le rapport, ce que je représente est contesté, le pouvoir que je représente est contesté ou pas d'ailleurs par le public, parce que je suis un adulte face à des adolescents ou des enfants, ou parce que je suis un enseignant qui représente une certaine classe sociale face à une autre classe sociale qui a l'impression qui n'est peut-être pas simplement une impression, d'être dominée, écrasée et décrite dans tout ce qu'elle a de péjoratif, hein, dans un rapport péjoratif. Donc il me semble que tout ça s'articule, se mélange, et que c'est là que ça devient compliqué pour les acteurs.
Donc oui, ce qui me pose problème quand même, c'est qu'on mette autant de poids sur le pouvoir. Pouvoir contre pouvoir, on est toujours sur une relation binaire, c'est-à-dire 1, 2, 0, 1. C'est-à-dire j'ai du pouvoir ou j'ai pas de pouvoir, et l'objet me semble pas forcément être avoir du pouvoir, mais certainement être autour de l'élève. C'est-à-dire qu'est-ce que l'objet premier, c'est avoir du pouvoir, ou est-ce que c'est je suis ou nous sommes autour d'eux? C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans la même relation. Alors effectivement, tout le propos, si vous voulez, je comprends bien la situation verticale du système éducatif de l'éducation nationale, le système horizontal de positionnement au niveau du partenariat, la croisée des chemins vers lequel nous devons tendre aujourd'hui au niveau des ZEP et au niveau du partenariat, eh bien effectivement, c'est trouver cette interface. Et est-ce que l'objet pouvoir ne peut pas être modifié? Parce que si on part effectivement et exclusivement de cette entrée pouvoir, je crois que la relation, on pourra toujours essayer de construire quelque chose, on achoppera. Moi, c'est mon analyse. Maintenant, si effectivement, il y aura forcément des enjeux. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de moyens, il y a des enjeux stratégiques d'espace-temps, temporel. Mais si on ne dépasse pas l'enjeu de pouvoir, je crains que on n'avance pas. Ben, c'est mon analyse personnelle.
Je ne suis pas sûr qu'on fasse usage de la même chose du mot, hein, quand vous dites si on ne dépasse pas l'enjeu de pouvoir. J'entends plutôt la question de prendre ou d'avoir le pouvoir sur une situation. Enfin, j'y entends ça, peut-être que, ou alors peut-être que je ne sais pas bien quoi en faire. Moi, ce qui me paraît important, c'est que on sort. Enfin, ça me paraît là aussi très fécond d'accepter l'idée qu'on ne sort pas des rapports de pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas. C'est vraiment très foucauldien, hein, dans la vie. Il n'y a pas d'extérieur. Voilà. Il n'y a pas d'extérieur à partir duquel on pourrait rêver d'être hors de ça et on pourrait reconstruire. Voilà. C'est que dans les mythes, cet extérieur. Quelle que soit la forme, la nature, la référence de ces mythes. C'est-à-dire, on n'y échappe pas, ils sont là, et du coup, toujours cette posture de me dire, mais ils sont là, on n'y échappe pas, alors faisons-en un problème. Voilà. C'est-à-dire, travaillons avec cette question, travaillons à voir sa présence, à voir sa présence qui change, et à voir aussi nos possibilités de le faire changer. Pas de nous en abstraire, mais de le faire changer. une des choses sur lesquelles moi je travaille, peut-être d'autres, mais à partir justement des logiques de la coopération. Il me semble que la coopération, elle introduit dans les rapports de pouvoir, il n'y a pas que la coopération, hein, l'éducation pourrait le faire, dans un certain nombre de cas, pourrait le faire systématiquement, elle introduit une donnée supplémentaire, c'est de se dire qu'entre nous, il y a un objet. Et le pouvoir n'est pas un objet. Le pouvoir, c'est le nom que prennent les rapports de force entre nous. Voilà. Le déplacement, et que je retrouve, y compris dans ce qui était dit sur la question de l'éducation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère comme un objet. Et c'est là que tous les discours sur l'enfant au centre avec tous les adultes autour, hein, le discours qui légitime le partenariat, c'est-à-dire tous les adultes intéressés par l'éducation de l'enfant sont réunis, et du coup on met l'enfant au centre. C'est-à-dire, dans les structures de travail, l'enfant est l'objet du travail de tous. Voilà. Et ça me semble problématique, ça, si on réinjecte effectivement ce grand rapport de pouvoir qu'est la relation adulte-enfant ou qu'est la définition de l'adulte par rapport à l'enfant, etc. C'est là que ça me semble intéressant, c'est que si on réintroduit un objet en se disant, quel peut être un objet commun? Quel peut être un objet qui ferait commun, c'est-à-dire qui ne se confronte pas dans l'un et l'autre? C'est pas l'un ou l'autre l'objet de nos attentions. C'est, on est effectivement autour de la table avec cette idée de, nous allons mesurer nos rapports de force et nos distances, non pas les uns à l'égard des autres en tant que tels, mais nos distances par rapport à l'objet. Voilà, pour donner juste une clé de lecture de mon montage intellectuel, on retrouvera ça dans le travail dans un des écrits de Philippe Breton qui travaille sur la question de la parole, hein, qui travaille notamment sur la question de la parole. Il dit un petit peu dans un travail généalogique de cette question des schémas et des formes de parole, il nous rappelle effectivement que dans la représentation grecque, gréco-athénienne particulièrement, mais pas exclusivement, mais la représentation des formes politiques est très liée à la question de la géométrie. Et du coup, la figure, d'une certaine manière, de la démocratie, c'est le rond, c'est le cercle. Et de cela, il tire tout un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire en le rapprochant, y compris des figures religieuses telles que le tableau, la scène, hein, c'est-à-dire que quand la figure de représentation de Dieu disparaît, celle qui est au milieu, qui reste-t-il au milieu? Personne. Alors, évidemment, personne avec une espèce de représentation supérieure, hein, dans la théorie religieuse, mais du point de vue des relations entre les hommes, ils sont tous à égale distance d'un centre vide. Et c'est cette égale distance à l'égard d'un centre, tous points du cercle à travers un centre vide. Le vide représente effectivement l'absence de concentration, hein, de figure du pouvoir, de concentration de la figure du pouvoir dans une personne, le roi, Dieu, etc., et oblige à un moment donné à penser, se dire, quelles sont les médiations qui vont permettre que cette relation d'égale distance du centre vide se transforme, pour le dire comme ça, en relation égalitaire. Voilà. Ce qui, moi, me permet à un moment donné, ce qui si vous voulez, la clé pour moi de mon montage, elle est là, dans cette référence-là, c'est de se dire que cette question du centre vide, elle est nécessaire. Parce que c'est le vide qui va rendre possible la relation, d'une part, c'est la distance qui va rendre possible la relation, et qui va éviter la violence. Mais la question de la coopération, elle naîtra à partir du moment où à ce vide est adossé un objet possible, un objet qui peut devenir commun. C'est-à-dire se dire comment allons-nous non pas remplir cet espace, mais l'utiliser à un moment donné comme une médiation possible pour fabriquer du commun autour d'un objet dont il va falloir se mettre d'accord sur quel est-il précisément. Pour le dire comme ça, on peut se retrouver pour la réussite éducative, super, mais on fabriquera de l'objet commun et quelque chose comme de la réussite éducative quand on aura une vision un peu plus claire de ce que tout cela, on veut en faire.
Ça, c'est bien ce qui est présent dans le travail qui a été fait par Stéphane et qui est résumé dans ce petit papier. C'est la question que l'objet, il est jamais prédéterminé. C'est-à-dire, quand on se met ensemble, la vision qu'on a, c'est pour ça que moi, personnellement, par exemple, l'enfant au centre, je ne sais pas ce que ça veut dire, puisque quand je suis instite, quand je suis animateur de quartier, quand je suis élu local ou quand etc., c'est pas au même qu'on pense. Et donc, à mon avis, une des grandes sources des malentendus dans les activités conjointes, c'est que l'objet n'est pas le même. Et ça, c'est une... Moi, c'est ce que je vais tirer dans les sciences du travail, qui nous disent que dans l'activité qu'a une personne qui travaille, il y a toujours un triangle, encore un, et dans le triangle, il y a moi comme sujet, la personne que je suis, il y a autrui, parce que travailler, c'est toujours travailler avec autrui, et il y a l'objet de mon activité. Et ce que dit Yves Clos, par exemple, là-dessus, c'est que on n'arrive jamais à l'objet de notre activité, qui pourrait être, par exemple, l'enfant ou l'élève, sans passer par les autres, et on n'arrive jamais aux autres sans passer par l'objet. C'est-à-dire que si le centre reste vide, parce que c'est ce qu'on disait ce matin avec Anthony Taillefer, c'est-à-dire que là, on se situe quand même dans des nouveaux paradigmes professionnels dans lesquels, je le redis, parce que c'est tellement aujourd'hui incorporé pour nous, que c'est le local qui crée les conditions de la réussite et du travail. Je rappelle que ça, c'est quelque chose, ça fait même pas 30 ans qu'on en parle dans nos métiers. Hein. C'est-à-dire que le bouleversement, il est tel qu'il y a encore beaucoup de difficultés là-dessus. Mais c'est parce que l'objet, il n'est pas déterminé que les choses sont compliquées. Comme tu l'as dit, moi, je suis assez d'accord sur le fait que quand on se met à penser en termes de contradictions, de tensions, de dilemmes, de tiraillements entre ça et ça, en général, on commence à être un peu du bon chemin. Et moi, il me semble, dans l'expérience professionnelle que j'ai dans ces 10 dernières années, que quand on se met à penser dilemme, tension, on ne succombe pas à un fétichisme de la mode, mais on se donne les actions pour réfléchir. Par exemple... Le double couple de tension là que tu as identifié tout à l'heure, moi je m'y retrouve assez, mais il y a beaucoup de gens, et c'est aussi ça que je voulais dire, c'est que je voulais juste signifier aussi que dans l'organisation qu'on a fait des 4 jours avec Stéphane, je voudrais juste faire un tout petit point d'ordre en disant qu'on a essayé de penser tout ça et que forcément les débats qu'on a, ils apparaissent peut-être loin, un peu complexes, etc., mais en même temps... je pense que dans les différents va-et-vient qu'on va organiser demain et après-demain, on va retrouver des questions qu'on aura brassées aujourd'hui et hier, et qu'on rebrassera encore vendredi avec, pour le coup, un autre sociologue qui aura une autre entrée encore sur les questions, qui par exemple ne se retrouve pas dans les questions de la discrimination, mais qui lui pense qu'elle s'oppose aux questions de l'égalité. Et donc voilà. Par contre, il faudrait qu'on essaye de penser, c'est un espèce de petit point d'ordre que je mets là dans l'après-midi, quand on aura avancé un peu, il faudrait qu'on essaye de penser en quoi les questions qu'on a entendues ce matin, qu'on commence à brasser là, etc., elles impactent le travail qu'on a fait hier après-midi, qui est sur qu'est-ce qu'on a dans la tête, comment on vient, etc., et comment ça reconfigure, que ça rééclaire, soit ça renforce, soit ça pose de nouvelles questions. Parce que Fabrice a dit tout à l'heure avec malice, mais il avait raison, l'objet de notre travail quand on vient ici 4 jours, il n'est pas complètement identifié. Et il faut qu'on fasse attention de s'y coller aussi pour que on reste pas dans quelque chose qui soit un peu de l'ordre de on est dans les limbes, on se promène, on va et vient, on fait du chemin, mais du coup on rebrasse pas ensemble. Et surtout, là encore je suis d'accord avec ce que Fabrice a dit, c'est la question de la traduction. Entre les mots de Fabrice, les mots d'Anthony, nos propres mots, les miens, etc. Il faut qu'on ait des espaces de traduction et qu'on se remette par petits groupes et qu'on ose dire, même si je me sens pas à l'aise dans la langue d'un tel et d'un tel, ça m'empêche pas de penser. Hein. Penser les questions de pouvoir aussi, mais je sais que Fabrice est d'accord avec ça, c'est aussi s'autoriser au sens propre, devenir auteur de ça, à partir de notre propre expérience et en s'appuyant sur les 4 théories qu'on essaie de nous donner.
Alors ce matin, je ne me suis pas présentée, donc je travaille en établissement éducation prioritaire, en collège, et effectivement, je suis vraiment persuadée qu'on ne sort pas du pouvoir, quelle que soit la relation avec qui que ce soit. Il me semble, enfin, le vécu que j'ai me laisse à penser que Fabrice a raison et qu'on ne sort pas du pouvoir. Mais du coup, si on l'envisage différemment, qu'est-ce que ça nous demande ? Si j'étais encore un petit peu plus triviale, je dirais, mais quels outils pour un petit peu s'écarter quand même ?
Je ne sais pas quels outils, mais je pense aussi que le malaise nous est fécond là aussi. C'est-à-dire,
ne le remplissons pas trop vite. On ne sait pas. Et je pense qu'une des clés qui peut nous aider, c'est d'abord un outil dans le regard. Mais c'est bon, c'est probablement mon défaut de sociologue ou de voilà, hein, ou de chercheur, etc. Hein, c'est-à-dire travailler sur ces paires de lunettes, ces manières de regarder, voilà, qui vont nous permettre de, voilà. Mais de quoi précisément et du comment, je ne sais pas bien. Voilà. Ça me paraît important parce que cette question des publics, j'y reviens. On est saturé et professionnellement et institutionnellement, et pas que dans l'école, à tous les niveaux, dans la définition de nos objets par la définition par le public, de la définition de toutes nos théories explicatives par le public. C'est la démonstration qu'on a faite dans une revue de la littérature autour de l'hypothèse de la discrimination dans l'orientation scolaire, c'est-à-dire que une partie majoritaire, dans le double sens du terme, à la fois en termes de rapport de pouvoir et en termes de nombre, une partie majoritaire de la production de recherche sur l'école conduit à définir les problèmes par le public. C'est-à-dire, au fond, même si on ne le formule pas comme ça, on reste dans des schémas qui attribuent à un moment donné, à travers des schémas explicatifs, qui attribuent le problème à une espèce de point de départ des inégalités dans les familles ou dans les publics. Et là, comment partir de là pour imaginer de les mettre autour de la table et de travailler avec eux, par exemple, les publics? Ça me semble extrêmement problématique parce que ce présupposé d'une pensée par le public, c'est qu'au fond, si on veut agir sur les mécanismes, il faut agir sur les publics. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient objets dans ce type. Enfin, c'est une des conséquences, à mon avis, de ce type de raisonnement. Et ça donne parfois des choses tout à fait extraordinaires. Je citais une formation dans laquelle j'ai travaillé avec des représentants syndicaux du SGEN et des ACEDIC, où c'est une formation syndicale intersyndicat. Donc on avait des enseignants et puis des professionnels des ACEDIC qui se retrouvaient là à essayer de travailler sur la discrimination et où ils ont essayé de se mettre d'accord, certes fabriquer du groupe et de l'identité collective, de l'identification collective, en disant bon, au fond on travaille avec les mêmes publics, nous c'est avant et vous c'est après. Alors je dis donc en fait vous formez des futurs chômeurs en m'adressant aux enseignants, d'accord, c'est ça votre objet commun. C'est l'idée que vous formez des futurs chômeurs et que les autres vont prendre en charge ceux que vous formez. En fait, c'est ça qu'il disait. Comment peut-on... bien sûr qu'on produit de l'identification commune, mais alors on la construit contre le public, d'une certaine manière. Voilà. Comment la construire autrement? Ça suppose pour moi de mettre en questionnement, effectivement, le type de rapport que l'on a au public. C'est pour ça que j'insistais, ou je proposais, c'est une grille de lecture des rapports de pouvoir, hein, comme une manière de mettre en jeu, y compris ce qu'il y a dans notre regard, hein, une espèce de réflexivité sur cette dimension-là, sur les présupposés mêmes de notre présence ici et de notre manière de travailler ici. Voilà. Elle est évidemment compliquée, cette réflexivité. Le deuxième petit point que je voulais pointer par rapport à ce que disait sur la question des objets, quand on observe des groupes travailler, se constituer, on se rend compte qu'ils fabriquent des objets, mais qu'ils vont passer éventuellement par des objets différents. C'est-à-dire, ce qui permet au groupe de travailler, c'est pas d'être d'accord une fois pour toutes sur l'objet final. Parce que sinon, on va passer 10 jours à essayer de se mettre d'accord sur quel sera l'objet final, et au bout de 10 jours, on sera pas d'accord. Ce qui nous permet de nous mettre d'accord sur un objet, c'est de passer par des objets intermédiaires. En tout cas, ce concept d'objet intermédiaire qu'on retrouve dans les travaux en ergonomie, c'est-à-dire qui voit comment les groupes effectivement travaillent et passent par des objets qui vont servir pendant un temps à fixer plus ou moins une représentation possible. Puis ils vont être l'objet de critiques, contredits, etc. C'est-à-dire on va passer par une série d'objets différents comme ça. Et ce qui aboutira à un moment donné, c'est-à-dire quand on dira on a travaillé sur ça, on ne peut le dire rétrospectivement qu'à la fin. C'est-à-dire, c'est une espèce de discours rétrospectif sur le travail du groupe, mais qui a jamais existé, enfin, qui n'existe que quand le groupe dit, voilà ce que nous avons produit, à un moment donné. Et ça me paraît, c'est pour ça que je dis, laissons un peu cette incertitude, cette ouverture, ce doute, là aussi, c'est-à-dire que, quand on veut travailler avec quelqu'un d'autre, on ne va pas arriver tout de suite à se mettre d'accord sur quoi on veut travailler. D'une certaine manière, on ne le produira qu'en travaillant avec l'autre. Et là, on a une relation qui est tout à fait, voilà, tout à fait parallèle, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire que la dynamique avec laquelle le groupe se constitue comme un groupe coopérant va de pair avec la manière dont les objets se transforment pour devenir objets produits. Ça me paraît important, enfin, quand on sait, à avoir en tête, c'est-à-dire il faut, pour que ça se passe, et des choses qui structurent, une idée un peu précise vers laquelle on se met d'accord, et en même temps de l'ouverture nécessaire, parce que si on estime que l'objet est déjà peut-être déjà fixé au point de départ, je pense qu'on empêche le processus de coopération. On aboutira du coup à des schémas d'organisation, de lui dire, bon, puisqu'on sait ce qu'on fait, allez, toi tu fais ça, c'est-à-dire on arrivera à une distribution des tâches, mais pas à une logique de la coopération.
Oui, je voudrais juste dire deux petits mots à propos des choses qui se sont échangées entre rapports enseignants, élèves, adultes, enfants, et tout ça dans le contexte des rapports de pouvoir qu'il y a à l'école. Moi, je pense qu'il y a vraiment un objet à réfléchir, c'est cette question de... Du savoir et comment on se sert du savoir pour attribuer des places. Et je pense à des choses très très matérielles dans ce qui se passe dans la classe. Et je pense y compris à la manière dont moi j'ai pu faire la classe. Cette manière qu'on a de en fait de demander aux enfants, quand on pose une question, de lever la main et puis de récompenser quelque part la bonne réponse et de dire à un autre élève, bah, tu as faux. En fait, on ne transmet pas du savoir, on assigne des places et à travers ce savoir, il y a bien des rapports de pouvoir qui se véhiculent et de l'inégalité qui se construit entre les enfants. Voilà, il me semble que, enfin, je veux dire, la question du savoir et la transmission d'une culture commune, je veux dire, c'est quelque chose qui est un objet problématique à réfléchir.
Oui, à un moment donné, notamment sur le rapport au savoir, il me semble que vous avez marqué une évolution dans l'acceptation de ce rapport. C'est-à-dire est-ce que vous pouvez expliciter cette partie-là? Est-ce qu'il y a véritablement, dans l'évolution du jeune, de l'enfant, un moment donné où ça bascule et pourquoi, etc. Dans l'éducation, il me semble, c'est comme ça que je l'ai compris, qu'à un moment donné, dans la manière dont vous avez décrit les rapports, que l'acceptation donc du rapport entre l'enseignant et l'élève évoluait dans le temps. Et que moi, je l'ai compris comme ça, et que l'élève, en grandissant, avait plus ou moins, l'acceptait plus ou moins. C'est effectivement le fait qu'il soit dominé par son enseignant. J'ai peut-être mal interprété, hein.
Je vois plus précisément à quoi vous faites référence. Je me souviens pas d'avoir dit ça. Peut-être, hein, je dis des bêtises ou pas des bêtises ou des choses sans m'en rendre compte. Je vois pas précisément effectivement à quoi ça fait référence. Il y a d'autres travaux qui nous renvoient effectivement à des schémas théoriques et des travaux qui nous montrent effectivement des évolutions dans cette acceptation-là.
Ceci dit, pour beaucoup, soit de pédagogue, soit de psychologue, soit de sociologue, c'est aujourd'hui une des questions clés qui est si on postule que la République et les institutions et ses fonctionnaires croient en l'éducabilité de tous, à quelles conditions, c'est là où tu as dit un petit bout de choses tout à l'heure, ces élèves qui sont très éloignés de la norme scolaire peuvent devenir des élèves qui réussissent, et donc à quelles conditions, dans leur propre transformation, autorisation, triple autorisation, dirait Rochex, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, mais demain matin on attaquera un peu ces questions-là. Qu'est-ce que ça demande? Parce que cette question que pose Catherine, elle est vraiment intéressante. Qu'est-ce que ça demande aux enseignants que de construire les conditions qui permettent que ces enfants-là deviennent des élèves, et puis même des étudiants, hein, parce qu'aujourd'hui, on a le problème exactement, y compris dans les universités, où on a un certain nombre de gamins, on dit, ils n'ont rien à foutre là, enfin, bon. Donc, la question que vous soulevez, elle est pour moi importante, on essaiera de la travailler demain. Il me semble que, en tout cas, moi, ce que je comprends à cette question-là, c'est que pour les faire changer, pour qu'ils entrent, qu'ils s'autorisent, il faut qu'on traite la question comme un problème, c'est-à-dire pas qu'on naturalise les choses en disant Enfin, c'est normal, ils doivent y arriver, c'est-à-dire c'est bien un problème, et qu'on sorte de la confusion entre trois mots qu'on pourra redéfinir demain, norme, normativité et normalisation, parce que, tu reparlais de Foucault, etc., il y a des questions de normes dans l'école, il y a des questions de normes culturelles, et que ça, ces déplacements-là, c'est parce que le jeune va les éprouver qu'il va pouvoir s'autoriser à dire « ça aussi c'est pour moi et je peux rentrer là-dedans sans que par ailleurs je trahisse ma famille, ma communauté, mon père et ma mère ».
Moi, je vous en parlerai dans la suite. Moi, je me retrouve effectivement dans ce terme, encore faudra-t-il voir si on y met exactement la même chose, d'autorisation. Voilà. Et ce qui me paraît intéressant, c'est-à-dire, il y a cette idée de devenir auteur, mais il y a cette condition, c'est-à-dire que ce qui va le rendre possible, c'est une action sur les cadres de permissivité. Et là, c'est très congruent avec la manière dont moi je choisis d'aborder et de travailler les choses. C'est de se dire, du coup, c'est bien une question qui se pose à nous, éducateurs, qui se pose à l'institution. Enfin, c'est-à-dire, c'est une question qui a une préséance à un moment donné. Et ça, ça me paraît important. Et moi, je la rencontre alors sur un autre plan que plus généralement la question de la réussite, etc. Mais pour moi, elle est absolument centrale aussi, y compris dans les modes d'enquête sociologique. C'est de quoi parle-t-on et de quoi peut-on parler et sous quelle forme, hein. En travaillant sur les questions de racisme à l'école, par exemple, moi, j'ai été très frappé de voir que ça fait partie des choses dont on ne peut pas parler dans le discours sur un mode de discours particulier qu'est un discours de l'expérience. Et du coup, les seuls discours éventuels que l'on a, ils transitent par des formes qui sont institutionnellement acceptables ou institutionnellement inacceptables, mais qui ne parlent pas du racisme, qui sont « je te fous un poing dans la gueule parce que tu m'as traité d'eux » et du coup, on va travailler comme un geste, voilà, on va travailler la violence physique. Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est combien le défaut de permissivité qu'il y a à l'égard de la question et de la parole autour de ça se traduit en défaut d'autorisation à faire avancer ces questions, à les reconnaître et à les faire avancer. Voilà. Donc moi, je suis très sensible à ces mécanismes-là, parce que, y compris en tant que chercheur, ça a des répercussions tout à fait importantes sur le statut qu'on donne aux choses. Et la littérature, elle est traversée de ça, c'est de dire « Ah, les enfants, ils n'ont pas parlé de ça, du coup, il n'y en a pas. » C'est pas parce qu'ils n'en parlent pas qu'il n'y en a pas. Et l'autre versant qu'on a dans les méthodes, c'est de dire « Ah, les enfants, jusqu'à tel âge, ils ne sont pas en capacité de parler de ça. » On a, dans les trucs sur le racisme, en disant « Bon, il faut travailler avec des enfants qui ont tel âge, parce qu'avant, ils ne peuvent pas. » Moi, j'ai fait des enquêtes avec des enfants qui ont 6 ans, il se dit des choses, à mon avis, tout à fait pertinentes et importantes autour du racisme. Voilà. Mais il y a un long travail qui est de travailler sur ce que moi j'appellerais le cadre, hein, le cadre autorisant, c'est-à-dire quels sont les signaux et l'ensemble des formes qu'il faut qu'on réunisse pour qu'une parole devienne possible. Et que, du coup, qu'à travers cette parole-là, qu'il devienne visible, palpable pour chacun, ben que l'enfant il est capable d'autoriser la démonstration d'une certaine manière de cette capacité et donc son développement. Voilà. Moi je fais le lien, je le travaille moins évidemment, c'est pour ça que je suis un peu en difficulté à le poser sur la question, enfin, qui seront bien plus pertinents au Rochex sur les questions de pédagogie ou de rapport, etc. Hein. Moi j'y trouve une équivalence par rapport aux questions sur lesquelles je travaille, c'est autour effectivement de cette figure de l'autorisation. Voilà.
Juste pour compléter sur le CFEN, il y a une formule qui était employée par quelqu'un du CFEN il y a quelques années, qui était de se poser la question de savoir si on transmet à tous du savoir qui donne du pouvoir ou si on réserve pas du savoir qui donne pas de pouvoir à certains.
Et avec cette petite nuance, c'est que la psychosociologie a beaucoup travaillé sur l'estime de soi, mais l'estime de soi, c'est un concept qui est formulé à partir de l'individu. Alors que le GFEN et l'éducation nouvelle, elles se structurent quand même autour du travail sur l'environnement et sur le cadre. Voilà. Et ça, c'est une des clés aussi, c'est que, ayant les clés dans ma construction intellectuelle, ayant moins un parcours du côté de l'éducation nouvelle, c'est effectivement quelque chose que je traîne dans mon histoire et qui fait partie, du coup, des éléments structurants, c'est-à-dire cette attention au cadre comme élément de l'autorisation, qui, à mon avis, n'est pas le même mécanisme ou ne prend pas le même point de départ que se dire on va travailler sur l'estime de soi des enfants.
Je me souviens d'un exemple qu'a donné M. Taïfé ce matin. Vous avez parlé d'un établissement scolaire dans lequel, en fait, concrètement, c'est la secrétaire qui avait le pouvoir parce qu'elle savait tout. J'aimerais bien votre opinion sur une situation telle que celle-ci. Qu'est, à la limite, j'ai envie de dire, je ne vois pas trop où est le problème. Presque heureusement qu'il y a quelqu'un qui a une vision large, et puis que même si le chef d'établissement n'est pas là, c'est quelque chose qui se dit beaucoup chez les chefs d'établissement. Le chef, c'est pas moi, c'est ma secrétaire, parce qu'elle sait tout. Et puis le pouvoir, c'est le savoir, et puis c'est pas grave, parce qu'on travaille en bonne intelligence. Vous disiez, hein, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord avec ça. Votre opinion sur la question vous plairait bien.
La lecture organisationnelle amènerait à dire que bien souvent, le secrétariat dans l'organisation joue comme lieu de passage des informations, voire lieu de concentration des informations, et que dans une société d'information et dans une organisation, c'est pas l'information, c'est évidemment une ressource de pouvoir considérable que de tout savoir, pour le dire comme ça, ou centraliser, ou d'avoir à passer par moi, etc. Ce que les théories des réseaux montrent très bien, hein, c'est-à-dire dire que si on regarde le monde comme ce qui circule entre les gens, on va se rendre compte que certaines personnes ou certains groupes, etc., sont à des lieux tout à fait clés des configurations globales de circulation, parce que énormément de choses convergent, traversent, passent par eux, et du coup, ils sont intermédiaires. L'autre face par rapport à la question des rapports de pouvoir, c'est que pour moi, ces modèles d'organisation ces théories de l'organisation sont très souvent fondées effectivement sur une rationalisation des places qui incorpore tout à fait la hiérarchie du travail et la séparation des tâches. Moi, en mettant l'accent sur les questions d'intermédiation, c'est-à-dire ces positions intermédiaires et à quoi elles nous amènent, elle va générer une lecture absolument radicalement différente de l'organisation. C'est-à-dire se rendre compte qu'à tous les niveaux, dans tous les types de travail, on a des travailleurs qui mobilisent leur intelligence pour répondre à des problèmes, etc. C'est-à-dire cette lecture par rapport à la circulation et au processus d'intermédiation nous montre deux types de choses. C'est-à-dire d'abord que la séparation, que le discours officiel des organisations qui sépare ceux qui pensent et ceux qui font ne correspond absolument pas à la réalité. C'est-à-dire que tout le monde pense et tout le monde fait. Évidemment, chacun différemment, bon, ok. Mais par contre, qu'évidemment, en termes de rapport de pouvoir, la reconnaissance de cela distribue des légitimités différentes. Et en fait, ce discours-là, pour moi, sert principalement à maintenir un ordre hiérarchique. Voilà. Dont on voit bien, c'est ça qu'on veut dire. On dit, ouais, sous-entendu, le chef d'établissement, il n'est pas chef. D'accord, hein ? C'est-à-dire, il y a un défaut dans la représentation hiérarchique. On en discutait à midi sur le protocole qu'il faut mettre en place dès qu'on accueille un recteur ou je ne sais pas qui. C'est-à-dire, nos organisations, ce rapport-là, il est très présent. Je ne dis pas qu'il sature tout, mais il est très présent. Et à mon avis, il est très présent aussi dans nos schémas théoriques, là, pour le coup, dans les représentations de l'organisation. La deuxième chose que je vous montrais, et là aussi, on a des travaux aujourd'hui très intéressants de l'ergonomie, qui sont les travaux sur la coopération, montrent qu'en fait, ce qu'on appelle décision, quand on dit que le chef décide, on a une représentation tranchée de la décision. En disant, voilà, celui qui doit décider in fine entre plusieurs alternatives possibles. Mais dans la réalité du fonctionnement des organisations, ce que montrent les travaux, y compris dans l'entreprise, y compris dans des entreprises très hiérarchisées, c'est que ça n'existe quasiment jamais. C'est-à-dire que la plupart des processus de décision ne sont pas du mode de la décision tranchée en dernier ressort par celui qui aurait le pouvoir, mais ou qui concentre cette position-là, symboliquement légitime, mais se prennent par des stratégies, par des logiques de réseau ou par des logiques de coopération. C'est-à-dire qu'on a une mode de décision beaucoup plus disséminée en réalité dans les relations de travail. Ce qui est très congruent avec le fait que chacun met de l'intelligence dans son travail. Donc chacun contribue à produire de la décision là où il est.
Oui, sur l'exemple que vous repreniez, qui faisait partie en réalité de tout un ensemble dispositifs que nous on étudie, et je rappelle que j'évoquais ça à partir de la notion d'exemplarité, hein, qu'on travaille. Cette question, nous, ce qui nous préoccupe beaucoup, nous juristes, c'est toujours de se demander qu'est-ce qui m'autorise à décider. Et décider, c'est en réalité prendre un certain nombre de mesures, et par exemple, dire que je diffuse une information, c'est une décision déjà. Et donc, qu'est-ce qui m'autorise d'une part à déléguer ma compétence de décision, et quand je transfère, je délègue cette compétence, de façon informelle, j'en délègue aussi les responsabilités qui vont avec. C'est-à-dire les conséquences sur le système, l'organisation du travail, sur la répartition des compétences entre chacun dans un territoire administratif. En un mot, quand vous transférez l'ensemble de ces compétences de façon informelle au secrétariat, vous redistribuez la répartition des compétences telle qu'elle a été établie dans un ordre administratif. Alors peut-être que c'est utile, j'en sais rien, je voudrais connaître votre établissement, mais peut-être que ça ne l'est pas toujours. En tout cas, cette redistribution, et c'est ça qui m'intéresse sur la notion d'exemplarité, elle est toujours visible, très visible, elle est connue de tous. Donc ici, la question qui va se poser à certains moments, c'est dans cette diffusion de l'information, par exemple, mais il n'y a pas que ça, eh bien, il y aura des interrogations sur la légitimité, il y aura des interrogations sur les qualifications, il y aura des interrogations supplémentaires. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez interrogé, les dites interrogations et d'où viennent-elles. Voilà, ça m'intéresse beaucoup parce que la secrétaire en question, elle va transmettre des prescriptions, des informations, mais avec ses outils à elle. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce que vous aurez imaginé. Et nous, juristes, ce qui nous intéresse, c'est la transformation entre la décision que j'aurais imaginée, et tu l'as bien souligné, cette décision, ce n'est pas tranchée, il n'y a que le juge qui tranche parce que c'est son métier, il n'a pas le choix. Tous les autres, en réalité, nous faisons une sorte de syncrétisme de tout ce qu'on a entendu, et puis ça va prendre à peu près une forme de décision, et encore pas toujours. Et quand on va mettre en œuvre cette décision publique, elle est elle-même l'objet d'une transformation avant d'arriver au destinataire de la décision. Donc, est-ce que vous acceptez cette transformation? Il faut la mesurer. Nous, on la mesure de façon très proche, parce que parfois, eh bien, ça peut provoquer des illégalités, ça remet en cause des statuts, des statuts qui sont par définition protecteurs dans l'exercice des fonctions dans un établissement scolaire, etc., etc. C'est pas rien, vous bouleversez la hiérarchie. Voilà, des positions telles qu'elles sont fixées par les textes. Ça n'a peut-être aucun intérêt, peut-être dans votre établissement, je peux vous assurer, pour avoir interrogé et très fréquemment étudié un certain nombre de dysfonctionnements, parce que nous, juristes, on a une vision pathologique de vos métiers, on s'intéresse à ce qui va mal. Donc, et ça, c'est une vraie difficulté pour nous, on s'intéresse à ce qui va mal, et même très très mal, puisqu'on a eu besoin d'un tiers extérieur pour résoudre la question. C'est pire, c'est que vraiment ça va mal. En tout cas, on n'a pas trouvé de mode de remédiation interne, donc c'est pas mince. Et quand le juge intervient, c'est une catastrophe. Parce qu'il apporte une réponse brutale, rustique, à quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc il faut éviter d'y aller devant le juge. C'est la raison pour laquelle il y a tout un ensemble de dispositifs qui existent pour éviter cela. Donc moi, je suis très intéressé par les secrétaires de chefs d'établissement. Voilà. Parce qu'elles prennent des décisions de nature juridique alors qu'elles n'ont aucune habilitation. Donc vous leur transférez des responsabilités qui parfois même sont juridiques. Et ça, c'est un peu compliqué pour elle. Pourquoi je dis cela? J'ai des dizaines d'exemples. Vous pouvez prendre des décisions qui vont engager votre responsabilité juridique, par exemple devant le juge pénal. Et parce que vous avez transmis l'information à la secrétaire, elle est avec vous devant le juge pénal. Donc, c'est pas mince de lui transférer des informations. Vous voyez la vision pathologique, je prends les choses qui vont très très mal. Mais encore une fois, il faut mesurer ça. Est-ce qu'elle était quand même... Vous êtes légitime à lui faire partager ce qui est en réalité votre responsabilité. Voilà. Je le dis, c'est arrivé souvent pour des agents d'entretien, par exemple, où il y a des intendants qui se retrouvent devant les tribunaux pour manquement à la sécurité dans l'établissement. Ils ont travaillé ces questions avec les agents d'entretien. Les agents d'entretien sont aussi devant le tribunal correctionnel. Voilà. Parce qu'on avait fait partager l'information, parce qu'on a transmis des prescriptions et on a délégué de façon informelle sa responsabilité. Voilà, c'est juste pour ça. Au quotidien, vous n'êtes pas toujours dans cette posture-là. Mais en revanche, c'est interroger et c'est regarder. Ça, c'est très, très important. C'est pour ça que la fonction de secrétariat m'intéresse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que vous... vous êtes quand vous avez fermé la porte de votre bureau. Ce qui m'intéresse, c'est de voir autour la distribution, et là pour le coup des pouvoirs, cette distribution qui est organisée par les textes et qui en même temps n'est peut-être pas conforme à ce qu'on a imaginé originellement dans la structuration administrative. Et donc ce que vous faites dans votre bureau quand la porte est fermée, c'est quelque chose qui est très visible de l'extérieur. Très très visible. Extrêmement visible. Voilà. Alors, exemple. Allez, je prends des situations pathologiques pour que vous compreniez bien pourquoi les juristes sont intéressés. Parce que vous faites dans votre bureau, quand vous avez fermé la porte et que vous êtes tout seul, l'usage des moyens du service à des fins personnelles, ça, tout le monde est au courant. Voilà. Tout le monde est au courant, pour plein de raisons que je pourrais vous indiquer, d'où l'exemplarité ou la non-exemplarité, etc., etc. Voilà. Nous nous intéressons donc aux vertus et aux talents du chef qui ferme la porte dans son bureau. Voilà. Et c'est propre dans toutes les administrations. J'ai fait un audit de ce type juridique au ministère de la Culture. On a l'impression, quand on a fermé son bureau, qu'on est tout seul. Eh bien non, on est très observé dans ses démarches, dans l'usage des moyens du service, dans son comportement qui fait preuve soit d'animosité, soit de compassion vis-à-vis d'autres agents. Tout ça, ça nous intéresse parce que ça provoque parfois des situations un peu pathologiques qui nous intéressent juristes. Voilà. Vous avez fait peur. Donc il faut enlever la porte de son bureau. Donc encore une fois, j'aime bien prendre les choses par le petit bout de la lorgnette pour remonter au principe, pour vous montrer que tout ça, c'est très pratique. C'est la même chose avec le DAZN. Hein. On a travaillé ça chaque année, on travaille ça avec les DAZN stagiaires, enfin pas stagiaires, qui viennent de prendre leur fonction. On travaille ça ou avec les conseillers directeurs. Voilà. Parce qu'ils ont les mêmes interrogations que vous sur ça. Jusqu'où je transfère une partie de ma responsabilité, qu'est-ce qui m'autorise à le faire et quelles sont les conséquences les plus dramatiques qu'on pourrait tirer de cette transmission passive, tacite, informelle de mes responsabilités. Oui, très simple, vous indiquez, vous allez recevoir des parents d'élèves. Et puis vous dites aux parents, vous indiquerez, là vous dites à votre secrétaire, bien écoutez, repassez demain, elle a autre chose à faire. Et la secrétaire rajoute des commentaires en disant, mais de toute façon, votre dossier est très mal engagé parce que les termes que vous avez employés, etc. Ça, c'est une secrétaire normale parce qu'elle a la pression. Quand les parents arrivent en créant une tension, je peux vous assurer que j'ai des dizaines et des dizaines d'exemples, hein. Je peux très bien arriver dans votre secrétariat, c'est très facile à faire, créer une situation de tension qui fera qu'elle me dira plus qu'elle ne doit me dire. C'est pas très compliqué. Si vous vouliez une situation concrète, c'est du vécu, hein, j'en ai plusieurs dossiers comme ça. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'après, devant un juge, c'est témoignage contre témoignage. Et la secrétaire, elle est convoquée. Elle peut devenir un témoin assisté dans un procès. Ça n'arrive jamais, hein, c'est epsilon hein, comme affaire.
Je voulais juste intervenir là parce que par rapport aussi à ce qu'a dit Patrick tout de suite sur finalement comment on s'en débrouille quand on est pilote de ces rapports de pouvoir pour travailler ensemble. Il me semble qu'en éducation prioritaire, c'est vraiment important de savoir comment on se débrouille de ça à l'intérieur, d'autant plus que avec le titre et pendant que vous parliez tout à l'heure, j'avais une citation de François Dubé qui me tournait dans la tête depuis tout à l'heure. C'est la dernière fois que j'ai entendu François Dubé, qui est sociologue, vous le connaissez. Il a dit la chose suivante. Travailler dans l'éducation nationale, c'est une profession libérale au sein de l'armée rouge. Et je trouvais que sur les rapports de pouvoir, c'était quand même assez éclairant de ce qu'on a à gérer finalement... où qu'on soit d'ailleurs, mais surtout quand on est pilote, chef d'établissement, UN, etc. C'est-à-dire qu'on est quand même, en butte à une institution où il semble y avoir un pouvoir très très fort, une hiérarchie très très forte, et en même temps, je crois que c'est Claude Allais qui disait, il y a beaucoup de hiérarchie, il y a beaucoup d'autoritarisme, mais il y a peu d'autorité. Parce qu'en fait, les choses se transforment, partent du haut, se transforment, et quand elles arrivent en bas, elles n'ont plus du tout le sens qu'elles avaient quand elles sont parties du haut. Enfin, c'est compliqué. Alors, je donne un exemple. On connaît tous l'exemple des devoirs à la maison à l'école primaire, interdit depuis
longtemps, 56, et qui perdure. C'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi finalement à faire appliquer. Et pourtant, il me semble que ces rapports de pouvoir, comment on pilote finalement au sein de cette institution qui est pleine de toutes ces contradictions. Si on regarde l'éducation prioritaire, en 2006, on a un texte, on a une circulaire qui établit les rares. Texte officiel, EP1, EP2, EP3, les rares, ça, tout est bien marqué dans une circulaire. Sur les éclairs, texte officiel, il n'y en a pas. C'est un vademécum qui n'a pas de valeur juridique de texte officiel. Est-ce que ça marche plus mal pour autant ? Donc, il me semble que le fonctionnement de l'institution, comment finalement on arrive à travailler ensemble, à imposer des choses finalement, à un collectif dans une institution où le pouvoir et l'autorité sont quand même très très difficiles à définir, hein, et très peu palpables. Je crois que c'est pour les pilotes au quotidien, c'est quand même très intéressant justement de voir comment on se débrouille chacun de ça. Oui, parce qu'on est plus, on est quand même beaucoup plus dans l'adhésion à, faire adhérer à, qu'imposer des choses. On sait bien qu'on ne peut pas, on n'y arrive pas. De toute façon, enfin, c'est quand même très, 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 très compliqué. Et pourtant, c'est qu'en éducation prioritaire, le collectif est fondamental. Donc, voilà, on est au sein de tout ça, on est pilote, et comment on s'en... Donc, c'est dans les rapports de pouvoir, c'est ça, moi, que j'avais en tête beaucoup, ces questions-là qui me. Mais peut-être que ça a été abordé hier, je n'étais pas là, donc je m'en excuse si ça a été abordé hier.
Moi, pour moi, ça fait très écho, et ça fait très écho à une situation qui m'avait amené à me poser la question du lien entre l'éducation nationale et la police. Mais pas le lien au sens de est-ce qu'on se rend compte, est-ce qu'on fait des choses ensemble, mais quelle pourrait être l'équivalence ? Quelle est la part d'équivalence entre ces deux institutions ? J'étais intéressé au fait que Anthony Taillefer ce matin ouvrait aussi la piste de ce rapprochement. Alors, j'ai pas travaillé sur cette comparaison, hein, donc avec beaucoup de prudence, c'est pas tellement une comparaison. Mais j'avais travaillé il y a quelques années avec l'école de police de Marseille dans une expérimentation qui a duré 4 ans sur l'idée de départ, c'était comment sensibiliser les futurs gardiens de la paix à la discrimination. Je suis arrivé dans une situation où j'avais physiquement le sentiment, en tant que formateur, hein, j'arrivais avec le sentiment physique que je me retrouvais avec une section entière, 40 gars armés, à essayer de me flinguer. Voilà. Donc déjà, sur la question du traitement de l'extérieur, de ce qu'il représente, et de ce, quand il amène cette question de la discrimination, comment il menace... quelque chose, voilà, à l'intérieur de l'institution, à tel point que les formateurs, ça je l'ai compris après, implicitement autorisaient leurs élèves à me malmener et me maltraiter. Et j'ai compris empiriquement que ça, il y avait bien une autorisation des formateurs, c'est-à-dire que là où il n'y avait pas l'autorisation des formateurs, ça ne fonctionnait pas comme ça. Et ils pulvérisaient les règles de civilité que pourtant tout le reste du temps, il mettait un point d'honneur à tenir. Voilà, c'est extrêmement organisé par des règles de civilité, on se lève, on se met au garde à vous, patati et patata, et là, dans cet espace, tout à coup, tout ça a été pulvérisé parce qu'il y avait un danger à éliminer. Et ça m'a amené, alors ça c'était le point de départ, bon, j'ai appris pas mal de choses à partir de là, y compris sur la mobilité pédagogique, pour des raisons de survie, mais ce que je voulais pointer, c'est que ça m'a vraiment amené à réfléchir au statut qu'a une question de ce type-là, dans cette institution-là, et j'ai retrouvé, en travaillant dans l'univers scolaire, j'ai trouvé une difficulté qui m'a semblé relativement équivalente à donner un statut à une question de ce type-là. Premier constat. L'autre équivalence, c'est de dire, mais au fond, on est dans deux institutions qui est organisée par le travail avec le public, qui est organisée par un travail très difficile, où on est sans cesse, effectivement, à travailler des choses compliquées, à faire face à des situations toutes sortes, etc., toujours en relation avec le public. Et l'autre chose, c'est que nous sommes dans deux institutions qui ont évidemment une place dans la symbolique de l'État et de l'État-nation, tout à fait particulières, hein, qui ont été rattachées toutes les deux à la question de la discipline dans les théories de Foucault, par exemple. Voilà. Donc je me disais, il y a plein de fils comme ça. Et ce qui, moi, m'apparaît, et c'est pour ça que je les relis, c'est que il me semble qu'on a des institutions qui, effectivement, ont l'apparence d'être extrêmement verticales dans les codes et dans la forme et dans la représentation qu'elles maintiennent. Et ces codes sont très actifs dans le protocole. Ils sont très actifs lorsqu'on va évaluer. Moi, je suis très frappé. C'est-à-dire, enfin, la fonction du droit, ou le droit, le discours du droit, vient suivre, hein, ce mécanisme de distribution hiérarchique des tâches, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et vient pointer les moments où, dans le réel, ça correspond pas à la prescription, avec une violence qui peut être très grande, hein, j'entends, dans ce basculement-là. Donc, il y a cette logique hiérarchique très forte, et en même temps, il y a une absence de régulation des tensions, des conflits, de la violence, de la souffrance, etc., qui est absolument abyssale. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, je ne sais pas si on peut aller plus loin, mais il me paraît que, voilà, une espèce d'équivalence dans ces deux institutions, et une des conséquences, c'est que, du coup, ces formes de régulation reposent sur la manière dont on tient professionnellement et dont tient le corps professionnel. C'est-à-dire, un des effets, c'est une logique de corps qui est relativement fortement développée. Alors, avec des variances, là aussi, hein, la représentation syndicale n'est pas la même, la fonction des syndicats n'est pas la même, bon, il y a des limites. Mais moi, il m'apparaît que, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans cette contradiction très fortement et probablement exacerbée aujourd'hui. On est dans cette violence-là, hein, finalement, entre un rapport de pouvoir institutionnel, donc très, très hiérarchique, et qui exige que l'on continue à représenter les choses sur ce mode-là, alors même qu'on prescrit systématiquement des solutions et des formes de résolution horizontales, ce que je pointais tout à l'heure. Je l'entends, en tout cas, avec cette lunette-là. Moi, ce qui me semblerait, dans ce que dit Patrick, ce qui me semblerait très intéressant, c'est que vous preniez au mot la question que vous soulevez, c'est comment on se débrouille chacun de ça? C'est-à-dire, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on tient ces choses ensemble? Quel montage? Par où on passe? Quelle tactique on a? Quelle stratégie on met en œuvre? Ça me semblerait très, très important qu'on puisse le travailler.